Bon, merci encore à Jean-Christophe d'assurer cette conférence. La demande initiale était venue de la part d'une personne qui se joignait à nous depuis peu, Janet, ici présente, hein. Mais j'avais également eu des discussions avec d'autres personnes et beaucoup, beaucoup d'intérêt par différents aspects du baroque, bien sûr, et aussi ce que l'ornementation a de spécifique dans cette musique, c'est-à-dire qu'on peut aussi ne pas faire exactement ce que le compositeur a prescrit, quand bien même il y a des règles, si j'ai bien compris, mais c'est ce qu'on va apprendre, extrêmement strict sur la manière de le faire. Donc moi, je suis tout en appétence parce que je connais beaucoup moins ce domaine que d'autres. Et donc, je profite aussi juste pour dire bienvenue aux deux autres associations, l'association Amarty et l'association Tous les Zen qui est parmi nous, hein, et qu'on espère renouveler ce type d'échange. Et enfin, qu'il y aura aussi une autre conférence dont Jean-Christophe va nous dire le thème à la fin, certainement, mais dont on n'a pas encore définitivement déterminé la date. Donc, il y aura bientôt une autre conférence encore. Toujours sur un sujet qui intéresse la préparation, la pratique de la musique de chambre par les amateurs, comment se préparer, comment aborder certains aspects de l'œuvre. Voilà, donc ça c'est notre créneau et on ne partira pas de ce créneau-là, mais on espère faire plein de choses en ligne en attendant de pouvoir se rencontrer plus souvent. En personne, voilà. En présentiel, comme on dit maintenant. Voilà.
Alors, super, merci pour cette introduction, John. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de vous faire une sorte de présentation générale sur les questions d'ornementation dans la musique baroque. Alors, je vais vous partager mon écran, mais avant ça, j'ai mis dans le chat, comme on dit, dans la discussion, j'ai mis le document que je vais vous montrer dans un instant. Comme ça, vous pouvez le télécharger. Vous n'avez pas besoin de l'ouvrir maintenant, mais si vous voulez le conserver, l'utiliser, en faire ce que vous voulez, il sera à votre disposition. Donc, je l'ai mis dans le ce qui s'appelle Converser. Donc, en bas de votre écran, si vous cliquez sur Converser, vous verrez apparaître une bande blanche à droite. Et il y a un document qui s'appelle Cours Musea Ornementation. Et donc, vous l'ouvrez, vous le prenez et vous le gardez et vous l'utilisez comme bon vous semble. Donc, voilà, à partir de là, je vais vous partager mon écran et on va commencer les débats.
Et pendant qu'on est sur des questions techniques, est-ce que Jean-Christophe, tu sais comment, parce que sur l'autre ordinateur, on aimerait enregistrer, est-ce que tu sais comment on demande à l'animateur, savoir moi-même, de pouvoir enregistrer?
Je ne sais pas du tout.
Ah, bon, on laisse tomber alors, c'est pas grave. Ok, pardon.
Voilà, sinon j'ai vu que presque tout le monde a coupé son micro. C'est une bonne idée de couper votre micro quand vous ne voulez pas parler. Ça
Oui.
évite des problèmes divers. Et que dire d'autre? Même si votre micro est coupé, n'hésitez pas à m'interrompre ou à poser des questions pendant que je vous parle. Et on gardera évidemment hein, du temps pour les questions à la fin. Donc notez-les, mais vous pouvez aussi les poser en cours et personne ne s'en offusquera. Alors, je vous partage mon écran. Je mets toujours 5 minutes à trouver comment on fait. Alors, partager l'écran. Chaque fois qu'on fait une mise à jour, c'est la même chose. Partager l'écran. Voilà, il est là. Ah, John, tu dois m'autoriser à partager l'écran. Mais je te vois parler, mais je ne t'entends pas.
Normalement, ça doit être possible maintenant.
Voilà. Alors, je ne vais pas vous lire tout ça, mais je vais vous le raconter. Alors d'abord, déjà une remarque, c'est qu'on parle d'ornementation dans la musique baroque. Évidemment, la musique baroque, ce n'est pas un grand pot homogène. Il y a des choses très différentes. Si on parle de Monteverdi, ou de Bach, ou de Couperin, ou de Rameau, ou de Händel, ou de Vivaldi, les questions d'ornementation ne sont pas les mêmes. Et je vais forcément simplifier beaucoup et essayer de vous donner quelques pistes pour vous retrouver là-dedans. Mais attention à ne pas mélanger. Évidemment, il ne faut pas appliquer à Bach ce qu'on peut dire sur Monteverdi et réciproquement. Comme je viens de dire, ça, ce que je vais vous présenter, c'est forcément très simplifié parce qu'on pourrait faire une vie entière sur la question des ornements dans la musique baroque. Donc, forcément, c'est réducteur ce que je vais vous dire, mais il y a quand même un certain nombre d'idées générales qu'on peut utiliser un peu partout. La première, c'est que les ornements, ils sont improvisés. Et c'est la raison principale pour laquelle ils ne sont pas écrits. Et ils sont improvisés parce qu'on considère à l'époque, et d'une certaine façon à toutes les époques, que quand on joue ce qui est écrit ou quand on joue ce qui n'est pas écrit, on ne transmet pas la même chose à nos auditeurs. On n'a nous-mêmes, en tant qu'interprète, pas la même relation à la partition qu'on est en train de jouer. Donc, c'est significatif de jouer des choses qui ne sont pas écrites. Ce n'est pas la même chose. Donc, ce n'est pas juste par, je ne sais pas comment il faut dire, par simplification ou par paresse d'écriture qu'on n'écrit pas les ornements. C'est pas parce que ça a un sens. Une remarque quand même, je vais y revenir à la fin, je vais vous donner un certain nombre de conseils pour ce que vous pourriez faire si vous avez envie de vous lancer et d'apprendre à ornementer. Mais avant d'improviser des ornements, c'est tout à fait légitime dans une première étape de commencer par les écrire, c'est-à-dire se dire à cet endroit-là, je voudrais faire ça, et puis voilà, on les prépare et après on les joue, même si on les a préparés. On les apprend par cœur, et puis on peut aussi apprendre plusieurs ornements différents pour un même endroit d'une même œuvre. Et puis au moment où on joue l'œuvre, eh ben, sur le moment, on choisit parmi les différentes possibilités qu'on a préparées. Et puis quand on a fait ça beaucoup de fois, pendant 100 ans, eh ben, le siècle suivant, on arrive à improviser très bien directement ces ornements. J'y reviendrai, mais une des plus grandes difficultés pour ceux qui commencent à ornementer, c'est qu'on veut toujours faire des ornements géniaux et extraordinaires, et c'est pas possible de devenir Bach directement en quelques minutes. Donc, il faut commencer par faire des ornements très simples et très naïfs, et ça sera forcément une première étape. On est obligé de passer par là, comme on dit, Roma non fu fatta in un giorno. Voilà. Alors, sinon, une chose très importante à savoir. Dans toute la période dont on va parler, c'est-à-dire en gros du début du XVIIe siècle jusqu'à la moitié du XVIIIe, il y a deux sortes d'ornements. Il y a les ornements qu'on appelle les agréments essentiels et ceux qu'on appelle les variations arbitraires. Alors, selon les styles, selon les langues, évidemment, les termes ne sont pas les mêmes, mais les concepts sont, à ma connaissance, à peu près universelle dans toute cette période-là et dans toute l'Europe. C'est l'idée qu'il y a des ornements qu'on fait sur une note. Par exemple, je joue. Voilà, une note avec son ornement. On appelle ça les agréments essentiels. C'est des agréments qui sont liés à une note et ils sont essentiels. Ça veut dire que d'une certaine façon, on doit les faire. Même s'ils ne sont pas écrits, on doit les faire. Vous savez tous très bien que, à la fin d'une, dans une cadence, il y a toujours un trille. Et si on jouait pour finir une sonate baroque sans le trille, ça nous semblerait boiteux. Ce trille-là, on doit le faire. Donc les agréments essentiels, ils sont sur une note et ils sont en quelque sorte obligatoires, même s'ils ne sont pas écrits. Obligatoire, ça veut dire qu'on doit choisir parmi les innombrables possibilités lesquelles on va faire, bien sûr. Ils ne sont pas univoques, mais ils sont quand même prescrits, même s'ils ne sont pas écrits. Les autres, les variations arbitraires, elles sont, comme leur nom l'indique, laissées au libre arbitre du musicien qui joue. Donc, elles sont beaucoup plus libres, il y a beaucoup plus de possibilités, elles demandent beaucoup plus de, je sais pas comment dire, d'investissement du musicien et de prise de risque du musicien qui est en train de jouer. Et il y a un certain nombre de critères de style dont je vais vous décrire les plus importants. Et ces variations arbitraires, elles ne sont pas construites sur une note, mais elles sont construites entre deux notes. C'est-à-dire, par exemple, pour aller de do à ré, eh ben, on peut faire un ornement entre le do et le ré. Et c'est important de percevoir la différence avec les agréments essentiels dont j'ai parlé juste avant. Les agréments essentiels, ils sont sur une note. Les variations arbitraires, elles sont pour aller d'une note à une autre. Et il arrive assez souvent qu'on enjambe plusieurs notes. Par exemple, je vais avoir écrit sur la partition et je vais aller avec ma variation arbitraire de. J'ai écrit. Et je vais faire. Donc je vais de ré à sol. Et je ne joue pas le mi et le fa qui sont entre les deux, mais je ne sais pas quoi, une variation arbitraire entre le ré et le sol. Plus on progresse dans la capacité de faire des variations arbitraires, plus on va se lancer sur un intervalle plus grand. Au début, on va faire une note à la suivante, et puis ensuite, quand on est plus accompli, on va enjamber une ou deux notes, et puis après, on va aller du premier temps au premier temps suivant. Une chose particulière, vous connaissez tous le principe de, mettons, la folia, où on a un thème très connu, ou une basse très connue, ou un ténor très connu, et on va faire des variations sur cette basse. Ça n'est pas ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Je ne vais pas vous parler de l'improvisation sur la folia ou de l'improvisation sur le passamezzo, mais plutôt de la question de l'ornementation sur des musiques qu'on connaît, qu'on joue, un concerto de Vivaldi, une suite de Bach, tout ce qu'on veut. Donc, ces variations sur des thèmes connus, c'est encore un autre sujet, c'est un cas particulier, disons, et je ne vais pas l'approfondir. Juste un petit mot pour vous dire quelles sont les sources pour connaître ces ornements de la période baroque. Alors évidemment, il y a des traités. Des traités, c'est des livres didactiques qui ont été faits à l'époque et qui disent comment on doit faire tout, comment on doit se tenir en société, comment on doit tenir son instrument, qu'est-ce qu'on doit faire quand on a fait une fausse note et c'est des traités didactiques qui parfois sont extrêmement précis et parfois beaucoup plus généraux. Donc il y a des traités qui parlent d'ornementation. Ah, une chose que j'ai oublié de vous dire sur les variations arbitraires et les agréments essentiels. Les agréments essentiels sont beaucoup mieux connus au XVIIIe siècle ou disons à partir de la fin du XVIIe siècle. On connaît un peu, mais pas très très bien, les agréments essentiels au début du XVIIe siècle. Parce qu'on a peu de sources qui les expliquent. On sait qu'ils étaient là, on en connaît une partie, mais on ne sait pas très bien dans quel cas et de quelle façon on les utilise. Et donc on a un peu moins d'informations là-dessus. Au XVIIe siècle, on a beaucoup plus d'informations, je vais y arriver tout de suite, sur les variations arbitraires. Et les agréments essentiels, ils sont très très bien connus avec énormément d'informations à partir du XVIIIe siècle ou la fin du XVIIe. Et parmi les éléments extrêmement concrets qui nous permettent de savoir comment ils jouaient, il y a les orgues mécaniques. C'est pour ça que j'ai noté ça. Il y a un certain nombre d'orgues mécaniques qui ont été enregistrés en temps réel. Par exemple, il y a des concertos pour orgue de Handel qui ont été enregistrés par un musicien avec un système mécanique qui enregistrait ce qu'il jouait. Et donc, on a exactement l'enregistrement de ce qu'il a joué à partir de la partition. Donc ça, c'est presque un enregistrement de l'époque où on entend un musicien et on voit ce qu'il joue. Une autre source, évidemment, c'est les partitions. Je vais y revenir parce que dans les partitions, il y a souvent des ornements qui sont écrits et qu'on peut utiliser comme source d'information quand on veut faire les nôtres. Alors, je vais partir maintenant d'un premier type d'ornementation. Je parle en premier de variations arbitraires, même si c'est pas forcément le plus facile, mais je pense que pour avoir un panorama, c'est une chose relativement circonscrite et qu'on peut percevoir. Alors, à partir du, je crois, 14e siècle, il y a un concept qui se développe dans toute la musique occidentale, qui est le concept de diminution. La diminution, c'est l'augmentation du nombre de notes. Ce qui diminue, ce n'est pas le nombre de notes, c'est la durée des notes. C'est-à-dire quand on remplace une blanche par deux noires, c'est une diminution. Ou si on la remplace par quatre croches, c'est encore plus diminué. Ou par huit doubles croches, c'est encore plus diminué. Donc le terme de diminution, pour nous qui jouons, ça veut dire.
Interviens, s'il vous plaît. Interviens.
Ah, j'ai entendu une intervention. Quelqu'un posait une question ou c'était juste un bug?
C'est bizarre, il y a une interruption, mais j'ai vérifié, tous les micros sont désactivés.
Tout va bien.
Donc, mais il y a néanmoins des interférences, donc je ne sais pas d'où ça vient.
Ne m'inquiète pas. Donc,
semble être des interférences de cuisine ou de choses comme ça. Là, la dernière, c'était une serviette, s'il vous plaît.
ah oui, bon. Mais là, on entend très fortement et je ne vois pas qui a
Oui.
son micro ouvert. En tout cas, vérifiez vous-même si vous voulez bien que
Pas
vous
grave.
avez. Voilà.
C'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. Que disais-je? Donc, les diminutions dans la période baroque, elles sont les héritières directes des diminutions de la Renaissance. Et le premier traité important qui nous en parle, c'est le traité du milieu du XVIe siècle, le Tractado de Glosas de Diego Ortiz, qui est un exemple caractéristique de ces très nombreux traités de diminution. Et vous voyez en bas, là, comment il se présente. Vous avez deux notes. On va lire en clé de sol, on va dire que c'est si, do. Et premier exemple, donc, premier exemple de diminution pour monter une seconde de minime, de blanche, au lieu de jouer si, do, on peut jouer si, la, si, do, ou on peut jouer si, sol, la, si, do, ou on peut jouer si, do, ré, si, do, ou on peut jouer si, do, la, si, do, ou on peut jouer un triolet, si, do, ré, do, ou on peut jouer si, ta, gada, gada, ou ti, ta, gada, 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 tim, ta, gada, 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 tim, ta, gada, gada, tim, ta, gada, 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 etc. Et les traités de diminution de la Renaissance, et par exemple celui d'Ortiz, donnent des pages et des pages, c'est par moments vertigineux, d'exemples de façons de diminuer un intervalle de seconde, un montant, un intervalle de tierce montant en blanche, en ronde, etc. Alors, quelques remarques sur ces diminutions. À l'époque de Ortiz, les diminutions, quand il nous donne des exemples de pièces entières avec leur ornementation, la diminution est répartie de façon homogène sur toute la pièce. C'est-à-dire du début à la fin, il y a des diminutions partout, tout du long, de façon à peu près régulière. Deuxième remarque, les notes, et vous pouvez le voir sur les exemples que vous avez en bas de la page, ces diminutions, elles sont conjointes. Par exemple, si vous regardez le numéro 3, si, do, ré, c'est conjoint. On trouve assez souvent des tierces. Si, la, si, do, c'est conjoint, si, sol, la, si, do, il y a une tierce là. Au début, ou bien si vous regardez le numéro 7, si, la, sol, la, sol, la, si, do, ou si, do, ré, mi, ré, do, si, do, si, voilà, c'est très conjoint avec de temps en temps des tierces. Les rythmes sont simples, il n'y a rien d'accidenté, c'est assez homogène en termes de rythme, donc on a une diminution avec quatre croches, ou une diminution avec quelques doubles croches, où c'est plutôt régulier, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Les diminutions d'Ortiz, c'est une très bonne école, même si on veut apprendre à diminuer sur un répertoire nettement plus tardif, mettons Monteverdi. parce que les diminutions d'ortie, elles sont assez faciles. Si jamais on les applique pour un style un peu plus moderne, si on fait des diminutions archaïques, mettons, pour une pièce de 1600, on va faire une diminution style 1550, le ciel ne vous tombera pas sur la tête et c'est une très bonne première étape. Donc, le traité d'Ortis, qui se trouve sur Internet en 3 clics, c'est une bonne entrée pour commencer à faire des diminutions, même pour un style plus tardif. Une remarque, il semble à peu près clair que les diminutions se jouaient détachées. Alors, il y a des instruments où la question ne se pose pas, mettons au clavecin, mais au violon ou à la flûte, on peut se demander si on doit faire un coup d'archet sur chaque note ou un coup de langue sur chaque note. Et à l'époque de Ortis, clairement, et même début 17e, clairement, les diminutions se jouent détachées. Donc, détachées avec l'archet, détachées avec la langue, selon les instruments. Un siècle plus tard, en 1700, il n'y a aucun doute, et d'ailleurs c'est écrit dans les partitions, on va y arriver, que les diminutions sont liées. Et on ne sait pas à quel moment on est passé de l'un à l'autre. Donc c'est à nous, à vous, interprètes, si vous faites des diminutions, de décider. Ben moi, je les fais liées. Mon approximation, c'est que on commence à avoir un peu de liaison dans les diminutions à partir de 1600, ou peut-être 1620. Mais on a des premières liaisons qui apparaissent dans les sonates pour violon, assez tôt dans le XVIIe siècle. Alors, regardez, je vous montre différents exemples de diminutions de différentes époques. Donc, vous avez ici sous les yeux l'exemple de Ortis. Donc, je vous ai dit que ces diminutions, elles sont conjointes. Il y a une exception, c'est que vous voyez ici le numéro 5 pour descendre une seconde de minima. Il y a un saut d'octave. Ça, c'est une chose qu'on trouve dès Ortis et qui progressivement va devenir de plus en plus fréquent. Ça a un intérêt auquel je vous expliquerai un petit peu plus loin. Mais donc, les diminutions, elles sont conjointes avec des tierces assez souvent et parfois dès le XVIe siècle avec un saut d'octave. Le saut d'octave, il se fait sur la note de départ. C'est-à-dire que quand on veut jouer Do, Ré, on va jouer Do, Do, Ré, ce qui va permettre d'avoir un chemin un petit peu plus long. Voilà. Un deuxième exemple d'un autre traité, 1585, donc on est, disons, entre la Renaissance et le Baroque. Ça, c'est très proche de ce qu'on pourrait utiliser en 1600 pour Monteverdi. Vous voyez, 15 ans d'écart, ce n'est pas beaucoup. Alors, déjà, une remarque, là, l'exemple, il est donné sur des rondes et pas sur des blanches comme précédemment. Donc, il y a la possibilité de caser plus de notes. Alors, quelles sont les différences? D'abord, les rythmes sont un petit peu plus irréguliers. Vous voyez ici, par exemple, le numéro 1, il y a 4 croches et 8 doubles croches, où on voit apparaître des triples croches. Un peu plus de notes pointées. Enfin, les rythmes sont un petit peu plus complexes, mais les ornements, ils sont toujours essentiellement conjoints. On voit quand même apparaître un petit peu plus de notes disjointes. Par exemple, ici, le premier exemple, il donne Do, Fa, ou bien le troisième exemple, il donne Do, Sol. Ici en bas, il y a le saut d'octave, le même qu'on avait déjà trouvé. Voilà. Ou bien ici, le numéro 2 en bas, là, ici, Fa, Do, il y a aussi un intervalle de quarte. Donc, on va se permettre à partir de cette époque-là un petit peu plus d'utilisation de choses disjointes. Je continue. Le troisième exemple, 1620. Donc là, on est vraiment dans le début du baroque. Donc là, l'exemple, ça n'est pas pour ornementer sur deux notes, mais il donne quelque chose d'un peu plus long. Donc c'est de la clé de Fa, La figure à ornementer, c'est do, ré, la, ré, fa, mi. Donc, vous voyez ici que ça devient nettement plus compliqué. Il y a beaucoup de triple croche, il y a des rythmes variés, il y a des choses qui sont arpégées. Même ici, il y a un arpège. Les ornements arpégés sont évidemment beaucoup plus difficiles à utiliser parce qu'on est obligé de tenir compte de l'harmonie qui est autour. Si le fa qui est ici, il est utilisé dans le cadre d'un accord de fa, l'arpège qu'on va jouer, c'est les notes de l'arpège de fa la do. Mais le fa, il pourrait se trouver dans un accord de si bémol. Donc dans ces cas-là, sur le fa, on va ornementer sur fa si bémol ré, etc. Donc pour faire les ornements disjoints, arpégés, on est obligé de tenir compte de l'harmonie. Donc c'est un petit peu plus difficile. Et donc si vous avez envie de vous y risquer, je vous recommande de commencer par le faire à l'écrit, c'est-à-dire vous regardez quelle est l'harmonie dans la partition et vous vous dites tiens, à cet endroit-là, je pourrais tenter un arpège en utilisant, et vous regardez les notes qui sont au-dessus, en dessous. Dans les différentes parties, et vous en dites, vous comprenez l'harmonie, et vous vous dites que vous pouvez utiliser toutes les notes de l'harmonie qui est utilisée. Si je reviens un petit peu plus haut, ici, même quand il y a un seul intervalle disjoint, do, fa, mi, ré, do, il est probable que cet ornement-là sera plus joli déjà si l'intervalle do, fa, les deux notes disjointes, sont des notes qui sont dans l'harmonie. Mais quand il n'y en a que deux, c'est moins obligatoire. On observe dans les ornements qu'on a qui sont conservés que quand il y a seulement deux notes disjointes, elles sont souvent dans l'harmonie, mais aussi il arrive souvent qu'elles n'y soient pas. Donc voilà, on est un peu plus libre. À partir du moment où on a trois notes disjointes, mettons si on avait do, fa, la, trois notes disjointes, ça crée un arpège. Donc ça crée un accord, et cet accord, il doit être celui qui est utilisé à ce moment-là par le compositeur. Voilà, donc je suis arrivé à 1620, et là je vais faire un petit bond dans le temps, et je vais arriver à 1700, Corelli. Donc ici vous voyez que les ornements, ces variations arbitraires, donc elles sont toujours conjointes, elles incluent à l'intérieur des trilles, et elles sont liées. Attention, la note d'arrivée, c'est-à-dire ici l'ornement de Corelli, il va la version écrite c'est mi la ré. L'ornement il va du mi au ré en enjambant le la. Il est utilisé en passant, mais il est enjambé. Et ce qui est important de repérer, c'est que la liaison ne va jamais jusqu'à la note réelle sur laquelle on va arriver. La liaison, le coup d'archet qu'on aurait fait sur le ré qui est là, si on n'avait pas fait d'ornement, on le fait de la même façon avec l'ornement. C'est-à-dire que d'une certaine façon, on pourrait dire que les ornements ne changent pas les coups d'archet. Les ornements au violon, puisque c'est Corelli, ça va faire bouger beaucoup la main gauche, mais pas tellement la main droite à cette époque-là. Alors que il est assez probable que les ornements de Rognoni qui sont là, ils étaient encore détachés en 1620. Donc là, ça fait bouger la main gauche et la main droite. Donc ça, c'est une grande évolution, une grande différence. Voilà, donc je vous ai donné une sorte de premier pôle du type d'ornementation, qui sont ces variations arbitraires jusqu'en 1700. Retenez quelques éléments importants. Ces ornements, ils sont essentiellement conjoints, avec assez fréquemment des tierces, peu d'arpèges, même dans Corelli, vous voyez, il n'y en a aucun. Par contre, ce qui est assez fréquent, c'est des répétitions de notes. Ici, vous voyez do, ré, do, ré, do, ré, do, ré, do, ré, mi, do, ré, mi, là. on a do ré mi ou on a do ré do ré do ré do, il y a des répétitions. Ou bien si je regarde celui-là un petit peu au-dessus, là si do ré mi fa sol la si fa sol la, voilà un motif répété, sol la si fa sol la. Ou bien si je vais un petit peu plus haut, do la si do ré mi ré mi ré mi ré do ré mi ré mi ré mi ré, on a des répétitions là aussi. Ça c'est une chose qu'on trouve fréquemment dans les ornements de cette époque-là, soit répétition de la même note, par exemple si je vais jusqu'à Ortis, jusqu'au début, regardez ce numéro 7 aussi, si, la, sol, la, si, do, la, sol, on a deux fois. Donc voilà, c'est une chose qui est assez fréquente dans toute cette ornementation de 1550 jusqu'à 1700, c'est la répétition de tout petits motifs, de deux ou trois notes. Une chose qu'on peut remarquer aussi, qui n'est pas indiquée de façon analytique dans les traités, mais on l'observe, c'est que très fréquemment, quand on a un ornement qui va, je ne sais pas qu'est-ce que je vais vous donner comme exemple, ici, je suis en bas de la page, là, l'ornement il va de Fa à Mi. Fa, et fa, mi. Il est très fréquent que la note d'où on est parti soit répétée peu de temps avant la note d'arrivée. Alors, dans l'exemple que je vous ai donné, elle est répétée juste avant la note d'arrivée, c'est-à-dire que l'intervalle fa, mi qu'on avait dans la partition simple, il est joué effectivement à la fin de l'ornementation, mais c'est parfois pas la note juste avant. Par exemple, ici, juste au-dessus, on avait la, sol, et on a la, la, fa, sol. Donc, le la, il est joué, ce n'est pas juste avant, ce n'est pas juste la précédente, c'est deux notes avant. Parfois, c'est trois notes avant, parfois, c'est même pas du tout, bien sûr, mais c'est fréquemment qu'on trouve la note d'où on est parti, juste avant la note d'arrivée. Et voilà. Maintenant, je vais passer à une autre idée complètement opposée à celle de la diminution entre deux notes. Je vais vous parler des agréments essentiels. Et alors que je suis parti de l'Italie, disons, du style italien vers 1600, là, je vais parler du style français vers 1700. Déjà, première remarque, ces ornements, ils sont très fréquemment écrits dans les ornements, avec beaucoup de précision. Il y a des compositeurs, François Couperin, Marin Marais, qui écrivent plein d'ornements dans leurs partitions, alors Couperin pour le clavecin, par exemple, ou Marin Marais pour la viole de gambe. Il y en a tellement que, finalement, pour nous, interprètes, eh ben, une fois, si on arrive à faire tous ceux qui sont écrits par le compositeur, on a déjà tellement de travail qu'on n'a plus grand-chose d'autre à faire. Mais ce n'est pas universel, c'est-à-dire qu'on peut avoir d'autres partitions du même compositeur où les ornements ne sont pas écrits du tout. Et donc, une des choses que nous, interprètes, on a à faire, c'est d'essayer de voir s'il y a des règles selon lesquelles les compositeurs placent les ornements à tel ou tel endroit pour pouvoir mettre les ornements nous-mêmes dans les cas où ils ne sont pas écrits. Et il s'avère que oui, il y a des règles et elles sont assez bien explicitées dans les traités, et en plus on peut les observer nous-mêmes, ce qui fait qu'on peut parfois trouver des règles dont ils ne sont pas forcément conscients mais qu'ils appliquent quand même. Les règles d'ornementation, elles sont liées à la nature de la note sur laquelle on met ces ornements. Et les critères principaux, c'est est-ce qu'on arrive à cette note de façon descendante ou ascendante, et est-ce qu'on joue sur un temps fort ou sur un temps faible. On ne met pas les mêmes ornements selon qu'on arrive par en bas ou par en haut, et on ne met pas les mêmes ornements sur les temps forts et sur les temps faibles. Évidemment, ça peut se voir à plusieurs échelles, c'est-à-dire que quand je dis temps fort ou temps faible, sur quatre doubles croches, c'est la première des quatre qui va avoir un ornement de temps fort, même si c'est le deuxième temps de la mesure. Mais il y a donc des ornements qui vont sur les notes appuyées, les bonnes notes, comme on disait à l'époque, et des ornements qui vont sur des notes faibles. Je vais vous les montrer tout de suite. Il y a beaucoup plus d'ornements sur les notes appuyées que sur les notes faibles. Les compositeurs, en plus de mettre plein d'ornements sur les partitions, ils nous ont transmis des listes d'ornements qui sont généralement plutôt faites pour expliquer quelle est la signification des signes qu'ils utilisent dans leur partition. Parce que ce qui nous complique un petit peu la vie, c'est que le nombre d'ornements utilisés en France vers 1700 est assez limité, mais les noms d'ornements sont beaucoup plus nombreux. Les mêmes ornements peuvent être nommés de façon très différente par différents compositeurs. Et évidemment, les signes utilisés dans les partitions, qui sont en quelque sorte des abréviations pour ne pas avoir besoin d'écrire toutes les notes parce que c'était compliqué et long, les signes utilisés ne sont pas forcément les mêmes. Et donc, chaque compositeur a sa propre règle. Et puis, on peut dire que, disons, les clavecinistes ont tendance à utiliser des signes d'ornement qui se ressemblent, les violonistes des ornements qui se ressemblent, les chanteurs des signes d'ornement qui se ressemblent. Donc j'ai fait, moi, pour vous et pour mes étudiants, une petite liste d'agréments essentiels, de signes, mais les signes sont beaucoup plus nombreux que ça, et l'essentiel c'est de reconnaître de quel ornement on parle, et on va comprendre comment on les place. Donc je vais vous les présenter l'un après l'autre. Une remarque générale: dans cette liste, il manque un ornement très important, qui est un ornement de flûte ou d'autres instruments, qui s'appelle le flattement. Le flattement, c'est un vibrato qu'on fait avec le doigt. Et les sources de l'époque, en France vers 1700, disent qu'on doit faire un flattement sur presque toutes les notes longues. Ça correspond pour les violonistes au vibrato. Donc ça se fait avec le doigt dans les deux cas. Au clavecin, malheureusement, les pauvres clavecinistes ou organistes ne peuvent pas faire cet ornement merveilleux. Mais les instruments, la plupart des instruments peuvent le faire. J'en parle pas ici parce que c'est assez simple. Chaque fois qu'on a une note longue, on va lui donner de la vie avec ce genre de vibrato. Alors, les agréments essentiels français. Le pincé. Facile. Alors, chez certains, il s'appelle battement. Chez certains, enfin, il y a toutes sortes de noms. Mais enfin, c'est assez simple, c'est après avoir joué la note principale, on joue pendant un très court temps la note juste en dessous. En gros, ça veut dire qu'on bouge le doigt. Ou au violon, on lève le doigt. Et ou au clavecin, évidemment, il faut les deux doigts. Mais vous avez compris ce que je voulais dire. On alterne généralement une seule fois la note principale avec la note juste en dessous. Ensuite, deuxième ornement très connu, qui est appelé généralement en France le tremblement. C'est ce que nous, dans un sens moderne, on appelle trille. Voilà, alors, pensez à une chose, dans toute la période dont on parle, sauf des exceptions tout à fait particulières, le trille, il commence toujours, toujours, toujours sur la note supérieure. C'est-à-dire, il n'y a que des exceptions très rares dont on ne va même pas parler aujourd'hui qui justifient de commencer le tri sur la note réelle. Et en réalité, ce tri, en quelque sorte, ce tremblement, il commence par une appoggiature, parce que cette note étrangère, ce sol sur le fa, il est appuyé. Et il a cette idée, cet appui que, évidemment, si je fais un tri sur le fa, l'accord qui est en dessous est un accord qui comporte le fa. Donc le sol du début du tri, c'est une dissonance. Et un des intérêts du tri, c'est de créer cette petite dissonance qui ne va pas durer très longtemps, mais qui va créer une sorte de déséquilibre ou de sensation très légèrement désagréable puisqu'on entend cette dissonance. Et puis à la fin du tri, on va arriver sur la résolution et ça va être le bonheur total. Donc, le tremblement à l'époque a cette fonction de créer une dissonance, de créer une étrangeté au début de la note, et puis ensuite on revient à la chose normale. Une chose importante à savoir, c'est ce que j'ai voulu dire en disant le tremblement sur le temps ne modifie pas la durée de la note. Quand on joue une note courte et qu'on fait un tremblement sur une note courte, eh ben, le tremblement doit rester court. Si on est sur une note longue, qui est assez souvent appelée cadence par les auteurs de l'époque, on va faire le tremblement long. Voilà, il faut avoir aussi une idée, à partir de 1700 en tout cas, assez évidemment, les tris, les tremblements doivent commencer sur le temps. Il ne faut surtout pas commencer avant le temps, ce qui est assez facilement une tendance. Quand on commence à s'habituer à commencer les tris par la note au-dessus, eh bien, on fait souvent cette note au-dessus un peu trop tôt. Donc ça, c'est une chose à éviter. Une autre sorte de tremblement, c'est ce qui est appelé souvent par les auteurs le tremblement fin, c'est tout simplement un tremblement qui a une très longue appoggiature. Au lieu de faire, je vais faire, c'est-à-dire j'ai une appoggiature qui dure presque toute la durée de la note, et puis les battements, un ou deux, juste à la toute fin. Le tremblement s'utilise sur des notes appuyées, sur des temps forts, sur des bonnes notes. Dans le cas de la musique vocale, il s'utilise sur des syllabes accentuées et il s'utilise quand on arrive en descendant. On va faire. C'est-à-dire que l'ornement est dans le sens de la mélodie. Si ma mélodie va de sol à fa, je vais faire un tri sur le fa. En revanche, si ma mélodie monte de fa à sol, je vais faire l'inverse, c'est-à-dire ce qui s'appelle ici le port de voix, c'est-à-dire que je vais faire l'appoggiature, quand je viens par en bas, je vais faire l'appoggiature par en bas. Donc c'est assez facile de retenir, dans la musique française, les ornements se font dans le sens de la mélodie, c'est-à-dire quand on monte, on fait l'ornement par en bas, et quand on descend, on fait l'ornement par en haut. Une petite différence entre le tremblement et le port de voix, le tremblement n'a pas toujours une très longue appoggiature. Ça arrive, mais c'est pas forcément fréquent. Alors que le port de voix a toujours une longue appoggiature, et même il est assez fréquent qu'il n'y ait pas de pincée, c'est-à-dire on fait juste l'appoggiature par en dessous, toujours sur une note accentuée, sur une syllabe importante, et sur un temps fort. Voilà un exemple d'ornement qu'on fait sur des notes faibles. Dans un intervalle de tierce descendant, ici mi-do, on va faire entre le mi et le do, une petite note, le ré. Le do est un temps faible. Et sur le do, je vais faire un petit ré qui est, au contraire du port de voix et du tremblement, il est avant le temps. On ne le trouve que sur des notes faibles en descendant dans des intervalles de tierces. L'origine de cet ornement peut faire comprendre pourquoi il est comme ça. Il était au départ utilisé pour le E muet, qui est une chose très particulière de la langue française, parce que on a, mettons, si on veut chanter sur des notes faibles, l'accent il tombe sur faible, Et le bleu, il faut surtout pas le chanter fort parce qu'on va pas chanter sur des notes faibles, ça sera très moche. Et donc on va mettre la note le premier temps sur la syllabe faible, sur la syllabe fait de faible, et le bleu, on va mettre juste la tierce en dessous avec un petit coulé pour le rendre encore plus fluide. Ensuite, juste après, je vous montre la combinaison entre les deux, le port de voix. Ou avec le pincé du port de voix. Pardon. Voilà. Encore un ornement caractéristique qui est appelé souvent tour de gosier, tour de chant ou toutes sortes de choses comme ça, que nous on appellerait groupetto. On va le trouver sur une note pointée, avant un rythme pointé, et celui-là vous le connaissez. Pardon. Donc là, on a sur le sol, on a son tremblement. Et le fa, il a un groupetto, tour de gosier, puis la cadence ou tremblement. Voilà. Et dernière chose à dire sur les tremblements, il arrive assez fréquemment qu'on ait un tremblement après une liaison, comme dans l'exemple que vous voyez. Donc on a fa, mi, tremblement. Et il ne faut pas oublier que le tremblement lui-même, il commence par un fa. Donc il ne faut surtout pas jouer le mi sur le deuxième temps dans ces cas-là. Si on joue... Il faut que le fa, il faut penser qu'il y a deux fa qui sont liés. Le fa qui est écrit et le fa du début du tremblement. Si on faisait sans liaison, on ferait... Et si on fait lié, on fait... On ne va pas faire cet accent horrible que je viens de faire, mais l'idée est là. Il y a deux fa liés. Je vous montre ensuite une autre table d'ornement. Qui m'est assez familière, mais il y en a des tas d'autres et dans les voilà, il y en a chez Couperin, il y en a chez Marin Marais, il y en a chez Bach, il y en a toutes sortes elles sont faciles à trouver. Une remarque rigolote, très souvent les tables d'ornement, c'est un tout petit bout de musique qu'on pourrait jouer tel quel et qui est faite de telle sorte qu'on puisse faire entendre tous les ornements dont on peut avoir besoin avec leurs signes. Donc voilà les figures des ornements, c'est-à-dire les signes. Je vous joue la mélodie sans aucun ornement. Voilà, un petit air de rien du tout, en sol majeur. Donc, vous avez les différents ornements qui sont les uns après les autres. Il y en a même un ou deux que je ne vous ai pas montré. Le coulé ou coulement, c'est dans un intervalle descendant de tierce sur un temps faible. On remplit par la petite note entre les deux et on la joue avant le temps. Ensuite, l'ornement suivant, je ne vous l'ai pas indiqué précédemment, qui est appelé par Rotter l'accent, c'est une sorte d'emphase à la fin de la note. Celui-là, on va le trouver sur des temps forts, sur des syllabes particulièrement dramatiques, et c'est un ornement qui est considéré comme plaintif et qu'on va utiliser pour exprimer plutôt des émotions de tristesse, de pleurs, d'exclamations, etc. Certains auteurs l'appellent même plainte. Ensuite, on a le port de voix double. C'est exactement comme le port de voix, sauf que c'est dans un intervalle de tierce ascendante. Donc, au lieu de faire un port de voix d'une note, on va le faire de deux. Ensuite, il nous donne un exemple de. Il appelle double cadence appuyée. Non, demi-cadence appuyée. Moi, je voulais appeler tremblement fin, qui est un terme plutôt de chanteur. Donc, c'est un tremblement avec longue appoggiature. Je vous rejoue tout depuis le début. D'abord sans ornement. Avec ornement. Ensuite, le tour de gosier que je vous ai montré avant, le groupe étau, sur une note pointée et sur une note pointée accentuée. Ensuite, ce qu'il appelle double cadence, c'est ce que nous on appellerait tri avec terminaison. Ensuite, double cadence coupée. C'est tri avec terminaison, mais où on n'enchaîne pas avec la note suivante. C'est pour ça qu'il appelle coupé. Je continue, le battement ou pincé. Le tour de chant, qui est aussi une sorte de groupe étau qu'on va faire sur une anacrouse. Et le port de voix. En arrivant par en bas de façon conjointe. Donc voilà, vous avez tous ces principaux ornements. Alors comme je vous disais, il y a énormément de partitions que vous pouvez avoir l'occasion de jouer où ces ornements sont écrits. Donc d'une certaine façon, ça ne vous pose pas de problème. Là où ça devient intéressant, c'est que on peut assez bien extrapoler ces ornements français du début du XVIIIe siècle à l'Allemagne, qui était très francophile. Disons, pour jouer du Telemann, faire des ornements à la française, ça ne peut pas être une grosse erreur. Ça peut pas être un... Et il y a certainement des tas de musiciens de l'époque de Telemann qui vont jouer ces sonates en faisant des ornements à la française parce que beaucoup de gens les connaissaient et c'était naturel. On peut considérer aussi que on peut les extrapoler de la même façon à Purcell en Angleterre ou à d'autres compositeurs anglais. Voilà, donc c'est utile à savoir parce que dans le cas des compositeurs allemands, contrairement aux français dont je viens de parler, la plupart du temps, les agréments essentiels ne sont pas écrits. Donc on va se baser sur les tables d'ornement et les utilisations de Marin Marais, Couperin, Hauteterr, pour Telemann. Et ça marche assez bien. Et c'est une première façon de faire qui est assez cohérente. Alors évidemment, Telemann, c'est pas écrit comme du Couperin, donc on va se rendre compte par la pratique, comme il y a déjà beaucoup plus de notes, on a moins de place pour mettre des ornements dans de la musique allemande. Mais là où on en a, on peut très bien les mettre à la française et on risque pas de faire de grosses fautes de style. Je continue avec le cas des agréments essentiels du style italien. On a pas mal d'informations, mais il y a un exemple qui est très très utile, c'est qu'il y a un manuscrit de Tartini qui est daté d'environ 1700 et où il fait pareil une sorte de table d'ornement en expliquant comment on les fait. Et je dirais que la principale différence, c'est que les ornements dans le style italien à cette époque-là ne sont pas dans le sens de la mélodie, contrairement au style français. Vous voyez ici, l'appoggiature, elle est par au-dessus quand on vient d'en bas. Do, ré, fa, mi, do, si, ré, do. Ou alors, parfois, elle est dans le même sens. Mais on peut se permettre, dans le style italien, de faire des ornements à l'envers. C'est-à-dire de faire des tremblements quand on vient d'en bas ou des ports de voix quand on vient d'en haut. Dans ces cas-là, les ports de voix en italien, on les appelle des appoggiatures. Et c'est rigolo parce que la traduction ici de l'époque, c'est poggiatura, il manque un bout du mot, et du coup ça veut dire un peu autre chose. Mais voilà, je vous l'ai mis pour l'anecdote. Je vous ai mis le lien ici de ce traité des agréments de la musique. Je ne vais pas m'y étendre trop longtemps parce que l'heure tourne, mais vous pouvez le télécharger. C'est en français, c'est une traduction de l'époque, c'est très facile à lire et c'est des explications très commodes pour comprendre l'ornementation à l'époque, les agréments essentiels en Italie à l'époque. Donc c'est un bon traité à utiliser, c'est facile à lire. Tiens, il se passe des choses très curieuses sur mon écran. On dirait il y a le nom d'Isabelle Lafitte qui apparaît et qui me fait des traits bleus sur mon écran. Je ne sais pas si vous les voyez aussi, mais c'est très surprenant. Voilà, alors je ne m'étends pas sur les...
Ouais, excuse-moi Jean-Christophe, c'est que je voulais copier en fait le lien et j'ai pris un stylo sur mon téléphone, enfin je veux dire un stylo numérique.
Oui, un stylo virtuel.
Oui, là, désolé.
D'accord, c'est pas grave. Voilà, mais de toute façon, comme je disais, le document que je suis en train de vous montrer, là, vous l'avez dans la discussion, donc vous pouvez récupérer le document entier, et de toute façon, je l'enverrai à John, qui pourra aussi directement vous le faire suivre après la conférence. Alors, je ne m'attarde pas sur les agréments essentiels de la musique italienne. Je vous ai dit la principale différence. Mais si vous regardez le traité de Tartini, vous verrez que finalement, il y a peu de différence sur ces agréments essentiels entre la France et l'Italie, sauf l'histoire du sens des ornements. On peut les faire à l'envers dans la musique italienne, alors qu'on ne doit pas les faire dans la musique française. Maintenant, je reviens à la question des variations arbitraires en dehors de l'Italie du XVIIe siècle. Et je vais vous montrer comment ça se passe par rapport à quelques exemples. Et puis ensuite, on verra un certain nombre de cas particuliers. Ici, je vous montre des airs français 1660 de Michel Lambert, qui sont intéressants parce qu'il les a publiés avec généralement un premier couplet avec les notes principales et un deuxième couplet avec des ornements. Alors, regardez ce qui se passe. Inutile de penser d'abandonner Sylvie. Il est vrai, son humeur tient mon âme à la gêne. Les ornements dans ce style français de la fin du XVIIe siècle, ils sont toujours conjoints, ça n'a pas changé. Ils ont des liaisons bizarres et très accidentées, qui sont liées à la présence des syllabes, parce que quand on chante, évidemment, il faut caser toutes les syllabes, et c'est un problème que les instrumentistes n'ont pas. Et ce qui est très intéressant, c'est que les syllabes sont placées de façon presque, j'allais dire, arythmique, volontairement pas sur les temps principaux, mais de façon décalée. En tout cas, et puis ils sont liés. Et une chose à remarquer, c'est que si jamais il y avait des agréments essentiels à faire, et il y en a, puisque j'ai dit que les agréments essentiels, on doit les faire, ils ne sont notés ni dans la version simple, qui est ici, vous voyez, il n'y a pas de tremblement indiqué, il n'y a pas de port de voix, il n'y a rien du tout. S'il y a un tremblement qui se balade ici, et ils ne sont pas non plus écrits dans la version ornée. Et par d'autres informations, on sait que dans la version simple, il fallait faire les agréments essentiels, donc un port de voix là où il y en avait un tremblement là où il y en avait un, d'abandonner Sylvie ici, ça aurait été bien le cas de faire une exclamation ou plainte que je vous ai montré tout à l'heure, cet agrément plaintif là. etc. D'autres tremblements, il fallait les faire. Et puis, probablement, il y avait encore des agréments essentiels dans la version ornée avec les variations arbitraires.
Jean-Christophe et Isabelle, oui. On m'avait toujours dit que, par exemple, quand on jouait un morceau, quand on chantait un morceau, le premier couplet était finalement simple et qu'on commençait à agrémenter de plus en plus compliqué au fur et à mesure qu'on répétait les autres couplets, non ?
Alors, je dirais oui, sauf qu'on ne joue jamais le squelette tout nu. Si tu regardes une pièce de Couperin, même simple, elle a toujours des ornements. En gros, ça n'existe pas de jouer juste les notes principales. On ne va pas faire une cadence sans trille, on ne va pas faire une note importante appuyée sans son port de voix. Donc, les agréments essentiels, ils sont essentiels. On peut en faire plus ou moins, mais jouer tout nu, j'ai l'impression qu'en gros, ça n'existait pas. Et pourtant, c'est ce qu'on fait, nous, à notre époque, tous autant qu'on est, très souvent, et même des musiciens très accomplis, hein, on joue tout nu. C'est probablement une faute. Alors après, je voulais évoquer une question, parce que quand je parle des ornements, c'est une question qui revient très souvent. Est-ce qu'il faut ornementer Bach ? Grande question. Plusieurs éléments de réponse. D'abord, Bach ne se considérait pas forcément comme un compositeur différent des autres. Donc, quand il donne une partition à quelqu'un, il ne considère pas que le musicien, le oboïste ou le chanteur qui va l'interpréter va se comporter différemment de d'habitude. Donc, s'il donne sa partition à un oboïste qui fait les ornements, eh ben, il y aura des ornements dessus. Donc, par exemple, dans le cas des suites pour violoncelle, qui est caractéristique, il y a très très peu d'ornements écrits dans les suites pour violoncelle. Il est bien probable que Bach s'attendait à ce qu'un violoncelliste dont c'est le métier et qui sait faire des ornements, eh ben, il va faire des ornements là où il doit y en avoir. Il n'y a pas forcément énormément de place parce qu'il y a beaucoup de notes, mais là où il y a des choses évidentes, je pense qu'il n'y a pas de doute qu'à l'époque, un musicien aura fait les tris, les ports de voix, les pincées, dans les suites pour violoncelle. Si on parle une seconde de la musique de clavecin de Bach, alors là, au contraire, il y a dans beaucoup des œuvres, beaucoup d'ornements qui sont déjà écrits. Donc, il n'y a pas beaucoup de choses à ajouter, puisqu'il a précisé ce qu'il veut. Et d'ailleurs, on peut remarquer assez généralement qu'on dirait que Bach a deux façons de noter sa musique selon les destinataires des partitions. Quand il écrit un air de cantate pour les musiciens de l'orchestre de Saint-Thomas à Leipzig, qui sont des musiciens accomplis, il n'écrit pas les ornements parce qu'il sait que les musiciens qui vont être là, ils vont savoir quoi faire et il n'a pas besoin de leur écrire. En tout cas, il n'écrit pas les agréments essentiels. Dans sa musique d'orgue, il n'écrit pas les agréments essentiels parce que c'est destiné à des organistes qui sont des musiciens professionnels. Par contre, la musique de clavecin, qui peut éventuellement être utilisée plutôt par des musiciens amateurs ou dans des œuvres qui sont publiées, il va mettre les ornements de façon à ce que les interprètes ne fassent pas n'importe quoi. Et puis, il y a une autre chose à remarquer sur Bach, c'est que très souvent, il écrit les variations arbitraires. Et il les écrit avec une subtilité, une intelligence, une originalité qui sont exceptionnelles. Donc, ce que nous, pauvres petits musiciens, on a de mieux à faire, c'est de faire exactement ce qu'il a écrit. Donc, faut-il ornementer Bach ? Commençons par regarder si la partition qu'on a, elle n'est pas déjà ornementée par lui. Et dans ces cas-là, on n'a rien d'autre à faire. Et puis, il y a des cas, on dirait bien qu'on a des partitions toutes nues. Et dans ces cas-là, oui, probablement, il faut ornementer. Donc, il faut arriver à faire le tri entre ce qui est ornementé et ce qui ne l'est pas. Et je vous donne tout de suite un exemple, c'est assez rigolo. Vous connaissez probablement le prélude en mi mineur du Clavier bien tempéré. Donc ça, c'est une œuvre destinée à la publication, probablement avec un objectif didactique. Vous savez, il y a les 24 préludes et fugues dans toutes les tonalités. Enfin, c'est l'objectif de faire une œuvre complète et exemplaire. Et dans le cas du clavier bien tempéré, les ornements sont écrits. Mais dans le cas de ce prélude en mi mineur, on a une version précédente qui existe en manuscrit de sa main, destinée à son fils Wilhelm Friedman, qui est une sorte de cahier d'études pour Wilhelm Friedman. Et le prélude, voilà la version destinée à Wilhelm Friedman. Il y a une basse, mi, sol, la, si, la, si, la, sol, mi, sol, la, si, la, si, la, sol, mi, la, si, do, si, la, mi, la, si. Et puis pour la main droite, il y a juste des accords, ploum, ploum, ploum. Voilà, il a écrit ça à Wilhelm Friedman. Et Wilhelm Friedman, c'était un très très bon musicien, donc Bach n'avait pas besoin de lui mettre plus que ça. Mais quand il l'écrit d'une façon plus définitive et éventuellement pour les mettre entre les mains de musiciens moins accomplis, pour la main droite, il écrit des ornements. C'est la même œuvre, hein. C'est mi, sol, la, si, la, si, la, sol, mi, sol, la, si, la, si, la, sol, mi, la, si, do, si, la, mi. Et pour la main droite, il écrit l'ornementation. Très détaillé, très subtil, avec toutes sortes de choses. Voilà. Donc, quand on est face à une partition de Bach, il faut se demander, est-ce que je suis dans le cas de la partition simple destinée à quelqu'un qui va savoir ce qu'il faut faire, ou est-ce que je suis dans le cas de la partition où tout est écrit et je n'ai rien d'autre à ajouter parce que ben, il a tout mis. Ce début de réponse que je peux faire sur peut-on, doit-on ornementer Jean-Sébastien Bach. Ça m'amène à une remarque générale il faut apprendre dans les partitions qui sont écrites à reconnaître quels sont les ornements écrits. Alors, je vais essayer de faire une chose, on va voir si ça marche. Il faut que. Parce qu'il n'y a pas que Bach qui écrit ses ornements tout détaillés, et les compositeurs ne mettent pas un panneau ou un clignotant rouge pour dire attention, regardez, là j'ai écrit tous les ornements. Ils les écrivent juste, et puis c'est normal pour l'interprète de les reconnaître et de savoir que c'est des ornements, et donc qu'on ne va pas ajouter des ornements sur les ornements. Je vais vous montrer un cas qui est assez... comme l'heure a tourné, je ne vais pas vous le montrer. Si vous suivez le lien qui est là, que vous aurez dans le document, vous verrez... je vous le montre. Hop. Est-ce que vous le voyez ou est-ce qu'il faut que je vous repartage l'écran ? Est-ce que vous voyez un grave ?
Oui, c'est bon.
C'est super. Alors ici, regardez, ça c'est une sonate pour flûte de Händel. Si, mi, fa, ré, mi, fa, la, sol, fa, mi. Il a publié cette sonate deux fois, quelqu'un a publié cette sonate deux fois pour lui. Et dans la deuxième version, il y a des ornements qui sont écrits. Ça, c'est des ornements arpégés qui tiennent compte de l'harmonie qui est en dessous. Comme je vous ai dit. Et ce qui est amusant, c'est que par hasard, on a une autre version de la même sonate où il n'y a pas de double croche ici. Quand on tombe sur une partition comme ça, il faut comprendre que c'est des ornements et les jouer comme tels. Alors, les jouer comme tels, ça veut dire quoi ? Ça veut dire déjà très probablement qu'il faut les jouer avec beaucoup de rubato. La notation du rythme des ornements est, on le sait assez bien, par des sources différentes, la notation des ornements est très approximative. Si vous pensez à Corelli tout à l'heure, il y avait écrit des triples croches, mais bon, voilà, il faut caser toutes ces notes-là dans l'intervalle qu'on a, mais ce n'est pas des vrais triples croches et on ne les compte pas pour savoir combien il y en a. Il faut aller du début à la fin et puis on casse toutes celles-là. Donc, les 12 doubles croches qui sont là, ce n'est pas nécessairement 12 doubles croches, c'est certainement pas 12 doubles croches régulières. C'est probablement un rubato sur cette mesure, donc probablement que le « la » ici va durer plus longtemps et puis qu'on va rattraper sur le temps qui reste pour que le « sol » tombe à sa place. Remarquez une chose, comme dans les exemples précédents, les variations arbitraires sont écrites, mais pas les agréments essentiels. C'est très très rare d'avoir dans la même partition les agréments essentiels et les variations arbitraires.
Oui, d'accord. Dans la première mesure, il faudrait faire un tri sur la noire pointée.
Probablement plutôt un pincé, si mi, ré, mi.
Ouais.
Et sur le ré dièse, certainement un tri, si mi, ré, mi, fa, mi, ré, mi, ré, mi, ré.
D'accord.
Voilà, voilà, exactement. Ou bien ici, si, ré, fa, la, la, sol, la, sol, la, sol, fa, mi. Il y a certainement un tri sur ce sol. Donc voilà, ce n'est pas parce qu'il y a des variations arbitraires qui sont écrites qu'il faut négliger de faire les agréments essentiels. Une chose qui est à remarquer, et j'avais choisi cet exemple-là à cause de cette mesure-là, qui est particulière, pour vous montrer que je vous dis que les ornements arpégés tiennent compte de l'harmonie. Oui, ils tiennent compte de l'harmonie, mais parfois, ils se permettent d'augmenter cette harmonie et de l'enrichir. Ici, si vous regardez cette mesure-là, la note réelle, c'est le ré, avec une basse de fa dièse sixte, donc l'harmonie c'est fa dièse ré la, donc ré fa la, ça c'est les notes normales, et Haendel dans son ornement, il augmente ça en faisant ré fa la do mi do la fa ré mi do la fa. Évidemment le do et le do, on pourrait dire qu'il est un petit peu dans l'harmonie, parce que le fa dièse c'est la sensible, donc ça serait une septième de dominante, ça peut marcher, mais le mi bémol qui est la neuvième mineure de dominante, elle n'est pas du tout sous-entendue dans le chiffrage du fa dièse de la basse ici. Donc les ornements, ils tiennent compte de l'harmonie, mais à cette époque-là, vers 1720-1730, ils vont souvent se permettre de l'enrichir beaucoup. Et de cette façon-là, il va augmenter les intervalles. S'il avait juste l'intervalle ré fa la, c'était limité, donc il va augmenter et il va augmenter l'ambitus de la mélodie. Je referme ça et je reviens à ce que je vous montrais avant. Donc, je vous disais, on en est à apprendre à reconnaître les ornements écrits. J'ai parlé avant de Bach qui écrit ses ornements selon le destinataire de sa partition. Il n'est pas le seul. Hein. Par exemple, Haendel, il n'écrit jamais les ornements des airs d'opéra parce que c'était une prérogative des chanteurs. Les chanteurs étaient des stars plus que les compositeurs et leur écrire les ornements, ça aurait été une insulte à leur compétence d'ornementateur. Donc, il n'en était pas question. Voilà. Un exemple assez intéressant. Dans l'opéra Psyché, Lully a écrit une plainte italienne extraordinaire et on a la chance d'avoir deux manuscrits différents, et dans un des manuscrits il y a une ornementation de l'air qui est là. Alors le copiste qui a fait ces partitions, il a choisi de mettre le deuxième couplet sur la diminution, sur l'ornementation, mais ce n'est même pas évident que ça soit destiné à un deuxième couplet. Il est possible que l'ornementation ait été chantée dès le premier. Donc, regardez ces ornements de Lully, ils sont toujours conjoints avec des rythmes assez simples. Le plus compliqué, disons, c'est croche pointée double. On n'a rien de plus compliqué que ça. Et alors, une chose amusante, c'est que ici on trouve un port de voix qui est écrit sol, ré, mi, fa, fa, sol, et il a écrit le port de voix avant le temps, contrairement à ce que je vous disais précédemment, où je vous ai parlé des ornements vers 1700. Il semble bien que à l'époque de Lully, donc 1670, on faisait souvent, sinon toujours, les ports de voix avant le temps. En tout cas dans le cas de la musique vocale, ce qui permettait d'anticiper la syllabe et de créer un effet de rubato. Donc voilà, tout ça c'est des exemples d'ornementation que vous pouvez utiliser, et je vais y revenir dans un instant. Je vous montre un autre exemple très connu. Si je clique là-dessus, si je comprends bien, vous allez le voir. Voilà, les sonates méthodiques de Telemann. Donc, Telemann a publié un recueil de 12 sonates, dont dans chaque sonate, un mouvement est écrit avec la version simple et avec une version ornée. Donc, d'une certaine façon, Telemann, avec cet ouvrage-là, il a fait exactement ce que je suis en train de vous faire. C'est-à-dire, il a fait un cours d'ornementation pour des amateurs. C'est publié à Hambourg. C'est Hambourg, je crois que j'ai un doute, je vérifie. Oui, Hambourg, c'est ça. C'est pour que les gens qui n'ont pas trop l'habitude apprennent à faire des ornements. Donc, ça, c'est très, très pédagogique, même trois siècles après. Et c'est une très, très bonne école de travailler ces sonates méthodiques, en commençant par jouer la version simple, et puis ensuite on joue la version ornée. Parmi les choses intéressantes, il y a le fait que dans chaque sonate, il y a un mouvement lent avec ornement et un autre mouvement lent sans ornement. Et le type d'écriture a l'air d'indiquer que il y a des mouvements lents dans lesquels il n'y a pas besoin de faire des ornements. Et par contre, un adagio comme celui-là, c'est indispensable. Donc, il nous montre comment on doit faire. Alors, si vous regardez en détail, vous voyez que les ornements, ils sont plutôt conjoints, sol, la, sol, fa, sol, avec une petite tierce, si, la, si, sol. Ici, il y a une tierce, ou bien mi, mi, fa, sol, sol, la, si. C'est toujours assez conjoint. Et puis, de temps en temps, il y a des arpèges, ré, la, fa, la, ré, des arpèges de l'accord qui est sous-entendu en dessous. Voilà, donc finalement, même chez Telemann en 1700, je ne sais plus combien on a vu, 1730, les ornements, ils sont toujours selon ces règles qui viennent de Ortiz au milieu du XVIe siècle. La musique dont on part n'est pas la même, donc ça ne va pas donner le même effet. Il y a un peu plus de variété de rythme, mais c'est pas si compliqué. Je vous montre un autre cas particulier, la deuxième sonate. Alors, je voulais vous montrer ce début-là pour vous montrer une chose qui, là, est tout à fait nouvelle à cette époque-là. C'est que, vous voyez, là, il y a une chose très curieuse, c'est qu'au lieu de jouer le mi sur le premier temps, on va le jouer un petit peu en retard. Il a écrit un demi-soupir et le mi au milieu du premier temps. Ça, c'est vraisemblablement une notation du rubato. Et si on regarde en détail les ornements de Telemann dans ces 12 sonates, on voit qu'il y a plein de tentatives comme ça. Par exemple, le si qui est là, il est ornementé avec une préparation là, si, ça commence avant. Donc, il va essayer avec une notation un petit peu gauche, parce que ça ne marche pas très bien de noter le rubato, de montrer qu'en fait, on ne joue pas toujours les notes exactement en même temps que la note de la basse qui est en dessous. Et puis, une autre remarque, et on le voit ici tout de suite, c'est la présence de triolets. À partir de la fin du XVIIe siècle, les triolets sont devenus très, très à la mode dans l'ornementation italienne, et ils se sont répandus partout, en particulier dans la musique à l'italienne en Allemagne. Et donc, Telemann ou Bach, ils vont utiliser énormément de triolets dans leurs ornementations, parce que ça vient d'Italie, alors que dans le style français, on en trouve très peu. Je referme tout ça. Je vais pas le rouvrir, mais je vous le redis. Une chose qui est très caractéristique, c'est que quand il y a des notes longues dans la version simple, les notes longues ne sont généralement pas ornées. C'est-à-dire, on trouve des ornements là où il y a déjà un peu plus de notes, et là où c'est très calme et où c'est que des notes longues, on les laisse longues de façon à ne pas tout aplatir et ne pas avoir la même densité de notes à tous les moments de la partition. Si on a plein de notes et puis une grande ronde, et ben la ronde elle va rester telle quelle, et c'est surtout pas là qu'il faut orner, parce que sinon le contraste entre les notes plus rapides et les notes longues est perdu. Donc en général, plus il y a de notes, plus on ajoute d'ornements, sauf si les pleins de notes qu'on a sont déjà des ornements, évidemment. Donc, ça reste une question tout à fait centrale de reconnaître les ornements écrits. Et dans la musique allemande de cette époque-là, Bach, Telemann et tous les autres, c'est très fréquent pour tous les instruments.
J'ai une question aussi. À ce moment-là, c'est l'accompagnateur, c'est la basse qui doit ornementer la valeur longue ?
Éventuellement. Ah, éventuellement, oui, c'est... ça c'est vrai. Ça c'est une question de basse continue, mais ouais. C'est vrai que la basse continue va faire des choses beaucoup plus riches dans les moments où soit le soliste, soit il se tait, soit il a des valeurs longues. D'accord. C'est exact. Que dire encore? Je vous ai déjà montré Corelli. Alors, j'ai parlé un petit peu du rubato. À partir de 1650, on a plein d'indications qui nous montrent que les musiciens jouaient avec beaucoup de rubato, en particulier quand ils faisaient des ornements. Et ce rubato, il n'est pas écrit. Et il est possible qu'il ait été très important. On a des sources qui ont l'air d'indiquer que les musiciens jouaient avec beaucoup, beaucoup de rubato. Il est probable aussi que selon les époques, les pays, les styles, etc., ce n'était pas forcément la même chose partout. Mais en tout cas, quand on joue ornementé, disons à partir de 1650, c'est sous-entendu qu'on va jouer avec rubato, que les ornements qu'on joue, ils sont souples, ils sont libres, ils ne sont pas dans une métrique binaire toute carrée. Du coup, ça c'est une information intéressante parce que ça veut très probablement dire que quand on a une partition avec des ornements écrits, on doit les jouer rubato aussi. Donc là, encore une fois, c'est très important, avant même de faire vos propres ornements, de reconnaître quels sont les ornements écrits et de prendre le réflexe de les jouer rubato. Alors rubato comment ? Ça, c'est à chacun de trouver son chemin et c'est difficile de vous expliquer ça dans une conférence, mais c'est une chose à apprendre à faire et finalement, il faut prendre un petit peu de risque de se décaler du solfège. Mais voilà, il n'y a que les notes principales qui tombent vraiment sur les temps, voire même, comme on vient de voir chez Telemann, la première note du morceau, on la joue en retard. Donc, ça veut dire que le rubato, il peut être assez marqué quand même. Alors, une question qu'on me pose toujours quand je parle d'ornementation, c'est comment ça se fait qu'il y a une telle pagaille ? Pourquoi il y en a, parfois c'est écrit, parfois c'est pas écrit, parfois il y a les essentiels et parfois il y a les arbitraires. On n'en sait rien du tout. À part que les destinataires des partitions ne sont pas forcément les mêmes, qui peut être un bout d'explication, mais pourquoi est-ce que les compositeurs ils écrivent certains ornements et pas les autres ? Parfois dans une même œuvre, dans une même copie, dans un même manuscrit, c'est écrit à un endroit et puis après c'est pas écrit, puis après c'est écrit à nouveau et on ne sait pas. Donc, mais c'est ce qu'on peut dire quand même, c'est que probablement les ornements étaient une chose tellement évidente à l'époque que on les écrivait un petit peu de temps en temps, mais ou parfois on écrivait ceux qui sont vraiment vraiment très incontournables pour les crétins. Mais les musiciens accomplis, ils faisaient des ornements comme on doit faire.
J'ai ma petite idée. Je crois que c'était une question d'économie pour l'impression.
C'est effectivement une hypothèse. Mais ce que je trouve très frappant, c'est l'hétérogénéité et l'incohérence. Et donc voilà, on ne sait pas très bien, mais en tout cas, c'est comme ça. Alors maintenant, j'en viens à qu'est-ce que vous pouvez faire ? La première chose, c'est n'ayez pas peur de vous tromper. Si vous voulez apprendre à faire des ornements, et la première chose à faire, c'est de risquer de faire des ornements. Et je dis toujours, l'inhibition est un plus grand ennemi que la faute de style. On a la trouille de faire des ornements. on a plein de raisons de ne pas y arriver parce qu'on n'essaye même pas. Donc, la première étape, c'est de réussir à se débarrasser de cette trouille et d'essayer de les faire. Et la première étape, c'est de faire des ornements qui vont être complètement hors style, complètement à côté de la plaque, complètement pas du tout comme il faut. Mais déjà, on s'est risqué à le faire et c'est une première étape. Une chose intéressante à faire, c'est évidemment se faire corriger par quelqu'un d'autre. Alors, si on peut se faire corriger par quelqu'un qui sait, par un prof, etc., c'est super. Mais ce qui est amusant avec les ornements, c'est que c'est une chose qu'on peut apprendre à faire à deux. Autant sa technique digitale, c'est un exercice solitaire, autant L'ornementation, c'est une chose qu'on peut très bien faire à deux. Tiens, j'ai choisi tel mouvement. J'ai préparé des ornements, je te les montre, toi tu les prépares aussi, tu me les montres, et puis il peut y avoir un côté comme ça, Talmud. Vous savez ce que c'est le Talmud? Le Talmud, c'est l'étude de textes de la Bible où on fait des commentaires et d'une certaine façon, ces commentaires ils ressemblent à nos ornements. Et il y a une règle, c'est qu'on ne doit pas étudier le Talmud tout seul. Et les ornements, c'est assez sympa de se dire, voilà, ben on va se mettre à deux, on va travailler la même pièce, et puis on va voir ce qu'on va trouver, et puis après, on va faire les ornements de l'autre, etc. Donc ça, c'est une assez bonne façon de travailler ça. Ensuite, je vous disais, commencez par faire des ornements simples. Si vous voulez faire un ornement sur doré, et ben vous prenez le truc le plus basique d'ortie, et au lieu de faire doré, vous faites do mi ré. Et parmi l'inhibition qu'on a, les causes d'inhibition, c'est que on voudrait faire tout de suite des ornements géniaux et formidables et comme ceux de Jean-Sébastien Bach. Eh ben non, ça n'arrivera pas, je suis désolé. Avant de faire des ornements géniaux, il faut faire des ornements de base. Donc voilà, un premier travail à faire quand on veut se risquer sur le chemin de l'ornementation, c'est faire des trucs tout à fait basiques. On ajoute une note par-ci, une note par-là. Et puis après on voit si celle-là elle allait bien, et puis votre instinct va vous guider et va vous dire que non, cette note-là c'était pas la bonne, je vais essayer une autre. Si do mi ré ça allait pas, je vais essayer do si ré et peut-être que ça va être beaucoup plus joli, ou do fa ré, ou voilà, et vous allez essayer, vous allez vous rendre compte que en fait votre instinct est un très bon guide. Ensuite, une autre chose qu'on peut faire, c'est pomper. Les ornements, on a le droit de les piquer aux autres, que ce soit le copain ou la copine avec qui vous travaillez, ou ça soit les exemples d'époque. Et une des très bonnes choses à faire, c'est de dire, voilà, je vais prendre une sonate de Leuillet, Veracini, une pièce de clavecin de je ne sais pas qui, et puis je vais appliquer sur tel mouvement les ornements que Telemann m'a montré dans la sonate méthodique numéro 4. Et on va utiliser l'exemple de Telemann pour ornementer une pièce d'un compositeur qu'on veut jouer. Et donc, on va juste faire du copier-coller. Cet ornement-là que Telemann a mis, tiens, à cet endroit-là, la mélodie est pareille, donc je vais mettre le même. Et puis, tiens, là, la mélodie, elle est presque pareille, donc je vais mettre presque le même, mais il va falloir que je change un petit truc, parce que sinon, ça ne va pas coller. Ensuite, une autre idée, si vous voulez apprendre à ornementer, c'est n'essayez pas tout à la fois. Ne faites pas à la fois Monteverdi et Telemann. Décidez que vous allez vous plonger dans l'ornementation de Telemann, ou disons de l'Allemagne dans cette partie-là du XVIIIe siècle, et vous allez prendre des exemples de l'époque. Alors, vous allez prendre une sonate de Telemann où il n'y a pas d'ornement écrit. Vous allez chercher si vous pouvez trouver des œuvres de Bach où il a écrit des ornements qui ressemblent, et puis est-ce qu'il y a une sonate méthodique que vous pouvez adapter, et puis vous allez aller piquer à droite à gauche des ornements existants signés par des compositeurs dans lesquels vous pouvez avoir confiance, et vous allez les coller sur ce mouvement que vous voulez travailler. Ensuite, une autre étape pédagogique à faire pour travailler des ornements, c'est choisir un morceau. Vous choisissez un bel adagio de Corelli. Vous oubliez les ornements de Corelli, ou disons, on va dire, je ne sais pas, un bel adagio de Veracini. À ma connaissance, il n'y a pas d'ornement de Veracini d'époque. Donc, vous prenez un adagio de Veracini, et puis qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous allez aller chercher chez Corelli, et vous allez trouver des ornements de Corelli qui pourraient s'adapter. Mais en regardant toutes les sonates de Corelli dont on a les ornements, vous allez trouver plein de solutions. Donc, sur ce morceau de Veracini, qui va être votre cobaye, vous allez chercher plein de solutions piquées à Corelli pour voir comment Corelli aurait éventuellement pu faire. Puis quand vous avez fait le tour de Corelli, et bien vous allez chez Geminiani. Et Geminiani, il y a des kilomètres de partitions avec des ornements. Donc, vous allez voir comment Geminiani aurait pu orner cet adagio de Veracini que vous connaissez par cœur. etc. Donc, ça, c'est une très bonne école. C'est-à-dire que vous choisissez un morceau cobaye que vous aimez bien, de préférence, et vous apprenez, vous cherchez à faire plein d'ornements à la façon de tel et tel autre. Et puis, vous allez voir que des fois, il y a des trucs qui collent très bien et puis des trucs qui ne collent pas du tout. Et là encore, votre instinct va vous guider. Maintenant, si vous voulez vous intéresser aux diminutions, une très bonne chose à faire, c'est un peu austère, mais ça a parfois même un côté obsessionnel, méditatif. On prend le traité à la page 1 et on joue tous les exemples, c'est-à-dire les 24 façons données par Rognoni pour aller de Do à Ré quand c'est une blanche. Ensuite, il y en a 24 autres pour aller de Ré à Mi, et puis encore 24 pour aller de Mi à Fa, etc. Et ça va vous faire intégrer par imprégnation les types de mélodies, les types de figures qui sont utilisées pour ornementer dans ce style-là. Et puis ensuite, vous fermez le livre et vous essayez de trouver plus ou moins de mémoire, mais si vous n'avez pas complètement reproduit quelque chose qui était dans les exemples que vous avez eus, ce n'est pas grave, vous cherchez vos façons à vous pour aller de Do à Ré. Et vous essayez d'en faire peut-être pas 24, mais 5 ou 6. Et puis après, vous faites de Ré à Mi, puis vous faites chercher quelques façons pour aller de Ré à Mi. Et si vous réutilisez certaines qui sont indiquées dans le traité que vous avez appris, bah très bien, ça veut dire que celles-là, vous les avez acquises. Et le traité, il est fait pour ça. Il est fait pour que les lecteurs, les utilisateurs acquièrent des façons d'aller de Do à Ré quand c'est une blanche. Donc, c'est que le traité vous aura bien servi. Et on ne vous demande pas de faire preuve d'originalité. On vous demande d'avoir un répertoire de façons d'aller de Do à Ré quand c'est des blanches. Voilà. Et puis, une dernière chose qui est très intéressante à faire, c'est quand on trouve une partition, comme par exemple la sonate de Handel que je vous ai montrée tout à l'heure avec des ornements, essayer de comprendre, si jamais on ne l'a pas, quelle était la version originale. Et j'ai choisi un exemple là, et j'en finirai avec ça pour aujourd'hui. Le concerto en Do majeur pour flûte à bec piccolo, petite flûte à bec flautine de Vivaldi, il est très intéressant parce qu'il y a plein d'ornements écrits. Et c'est un très bon travail pédagogique que je fais toujours faire à mes étudiants sur cette pièce-là ou sur d'autres, d'essayer de trouver quelle était la version simple. Regardez, ça vous souvient. Voilà, ça c'est écrit par Vivaldi. Il se trouve que pour ce concerto-là, probablement qu'il l'a écrit pour un flûtiste qui n'était pas doué en ornements, alors il lui a écrit les ornements. Mais dans un autre concerto, il n'a rien écrit. Et si c'était tombé sur un flûtiste doué pour les ornements, il aurait écrit. Par exemple, il n'y a pas forcément qu'une solution, mais il aurait écrit quelque chose qui ressemble à ça. Et donc, ça veut dire que maintenant, l'ornement que vous avez là, à la fin de la première mesure, ça devient un exemple d'ornement que vous allez pouvoir utiliser en copier-coller pour un autre endroit. Vous avez un intervalle mi-do, un intervalle de sixte ascendante, et bien voilà une chose qu'à l'époque de Vivaldi, on peut faire dans un intervalle de sixte ascendante. Remarquez qu'ici, il y a deux notes disjointes, mi-sol, et précisément mi-sol, c'est des notes qui sont dans l'harmonie.
Et les trois autres lignes, alors il ne faut pas ornementer, il faut laisser le premier.
Les autres lignes, c'est les instruments d'accompagnement, c'est les violons et alto et basse.
Alors on n'ornemente pas là.
Non, les instruments d'accompagnement, ils n'ornementent pas. Okay. Ils font quelques agréments essentiels, c'est-à-dire probablement le deuxième violon, il va faire un tremblement sur le ré dièse. Là. Mais pas des variations arbitraires. Mais des agréments essentiels, oui, comme toujours. D'ailleurs, à propos d'agréments essentiels, le la dièse, là, avec ou sans variation arbitraire, il a presque certainement un tri. Donc, il n'est pas écrit, mais on doit le faire quand même. Voilà, donc voilà plein de pistes pour ce que vous pouvez faire si vous voulez apprendre à ornementer. Voilà, et puis je finis toujours par ma même remarque pour tout le monde. En échange de ces cours que je vous donne, je vous demande d'inscrire vos instruments sur Anipo. J'en ai déjà parlé, je ne m'étends pas aujourd'hui, mais il y a plein de gens qui sont là aujourd'hui et qui n'étaient pas là dans les précédentes séances. Donc, Anipo, c'est un système de lutte contre le vol des instruments de musique. C'est gratuit, c'est non commercial. Ça consiste à inscrire vos instruments de façon à ce que, si jamais par malheur un jour ils sont volés, vous puissiez les retrouver. Donc, vous allez sur le site anipo.org. Je vais l'ajouter ici, anipo.org. Et vous voyez comment on fait, et ça prend quelques minutes pour chaque instrument. Il faut prendre des photos,